bon sabbat à tout le monde. On vit dans un monde qui est en perpétuel changement. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. On est en perpétuel changement. Et il arrive parfois que certains de ces changements-là soient soudains, spectaculaires, immenses, dramatiques. Il y a quelques mois à peine, la vie suivait simplement son cours à peu près pour tout le monde, sans que nous nous doutions le moindrement à quel point notre monde allait changer à partir du mois d'avril 2020, très rapidement. À partir de ce jour, le nombre de morts victimes du COVID-19 n'a jamais cessé d'augmenter, de façon même inquiétante. Ça veut dire que de très grands changements peuvent se produire très rapidement et même soudainement. Je vous rappelle qu'il y a environ 5 ans et demi, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a frappé l'océan Indien. Et vous savez quelle a été la puissance de ce grand tremblement de terre-là? La puissance de ce tremblement-là a été évaluée à 23 000 bombes atomiques. 23 000 bombes atomiques. Ça a duré seulement 9 minutes, mais il y a eu des dommages incroyables. Ça a provoqué des tsunamis gigantesques. Et ça a tué, vous vous rappellerez, plus de 230 000 personnes. Ça a détruit des villages côtiers dans 14 pays le long de la côte de l'océan Indien. Pour des centaines de milliers de personnes, ça a été un bouleversement rapide, instantané dans ce cas-là. Un changement total en seulement 9 minutes de tremblement de terre. Les changements soudains et parfois dramatiques, comme ceux-là, font partie de l'histoire du monde et de l'expérience humaine. Dans ce sens-là, on peut faire deux catégories de ces changements-là. Il y a certains changements qui sont très rapides et d'autres changements qui sont progressifs, dont certains changements lents et progressifs sont parfois à peine perceptibles. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Changement rapide » et changement progressif. Changement rapide et changement progressif. C'est un sermon que j'ai préparé en m'inspirant principalement d'un message que j'ai trouvé important, qui a été présenté dernièrement au quartier général à Charlotte par M. Jonathan McNair. Tous les changements ne sont pas mauvais. Absolument pas. Et certains changements, non seulement sont bons, mais sont même nécessaires. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit en tant que chrétien? Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à changer notre ancienne façon de vivre pour vivre selon ses lois, selon ses voies. Et c'est pour ça que il est marqué dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, pas besoin de vous y reporter, je vais vous le donner dans mes mots. C'est un verset qu'on cite régulièrement quand on rappelle aux gens qu'on doit changer. Faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire le mal, parce qu'on sait que Dieu a utilisé dans ce sens-là, le levain pour représenter le péché, la transgression de ses lois. Alors, il dit, faites disparaître de vos vies le vieux levain, le mal, afin que vous soyez une pâte nouvelle, une nouvelle créature, une créature selon Dieu, qui vit selon ses lois. Faites une pâte nouvelle, une nouvelle créature, faite de pain sans levain, de pureté et de vérité. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés, et c'est ce qu'on doit développer dans notre vie. Alors donc, faut que nous changions notre façon de penser, faut que nous changions notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de réagir pour en adopter de meilleures façons, celles que Dieu nous montre dans sa parole. Faut devenir une nouvelle personne. Reportez-vous à Éphésiens le chapitre 4. On va voir que Paul ici décrit ce que c'est que de devenir une nouvelle personne selon Dieu. On part d'un monde qui était contraire à Dieu complètement, pour adopter les lois de Dieu dans notre façon de vivre. Éphésiens chapitre 4, on va commencer à lire au verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, comme on marchait autrefois, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » C'est-à-dire comme on pensait, on n'avait pas de loi ou à peu près pas. On faisait ce que bon nous semblait. Ils ont l'intelligence obscurcie, on était comme ça avant, Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Dans l'original, c'est à cause de l'aveuglement de leur cœur, parce qu'on ne voyait pas encore, comme eux ne voient pas encore les gens dans le monde autour de lui. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, donc toutes sortes de mal. Mais vous, vous qui avez été appelés, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, de son exemple, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, si c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, donc à laisser tomber ce qui était nos anciennes façons de vivre, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, après avoir été informé de ce qu'il faut faire, et avoir désiré changer, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, devenir donc cette nouvelle créature, une créature spirituelle qui vit selon Dieu, même si elle est encore physique, et même si elle vit encore dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu. Créer cette nouvelle personne, cet homme nouveau, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors ça, c'est notre cheminement de chrétien. On part d'une façon de vie qui est complètement contraire à Dieu pour adopter une façon de vie qui lui plaît. Et plus on le fait, plus on est proche de lui et plus il nous aide. Or, les humains sont des créatures d'habitude, attachées à leur façon de penser, à leur façon d'agir, à ce qui leur est familier. C'est ça, on est tous comme ça. On aime nos opinions, et avant de connaître les opinions de Dieu, on était attaché à nos opinions. On est attaché à nos mets préférés, hein? On est attaché aux marques de produits qu'on a aimés et qu'on aime. On est attaché à nos dépendances, à nos péchés, parce que ça nous amène un plaisir. On est attaché à nos travers, parce que c'est la voie la plus facile qu'on a adoptée depuis le début. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de changer. C'est un combat, parce qu'au point de départ, on est attaché à ces choses-là qui sont nos habitudes. Alors, on part de là pour aller vers l'homme nouveau ou la femme nouvelle que Dieu veut que nous devenions. C'est difficile de changer. Dans ce sens-là, on est exactement comme nos chers ancêtres israélites. Allez dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. On va voir une description ici, comment les Israélites, malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux, tout ce qu'il leur avait révélé, comment ils étaient attachés à leurs anciennes façons de vivre et comment ils n'étaient pas patients et qu'ils voulaient avoir les choses tout de suite, selon leur façon de voir. Parce que ce qu'on va voir ici dans Exode 16, c'est très peu de temps après les 10 grands miracles que Dieu leur a donnés pour sortir d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, après cette délivrance extraordinaire, c'est très peu de temps après ça. Exode 16, verset 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils étaient insatisfaits. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Autrement dit, ils disent à Moïse et à Aaron, Dieu aurait dû nous tuer là, au lieu de nous amener mourir ici. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Incroyable! Au lieu de compter sur Dieu, dont ils avaient vu les miracles incroyables, tout de suite, ils s'en sont pris aux dirigeants et ils ont dit, vous ne nous avez pas aidés, vous nous avez amenés dans des problèmes, et ainsi de suite. Dans le fond, là, ce qui arrivait, c'est qu'ils étaient restés attachés à leurs opinions, à ce qu'ils avaient vécu là-bas, ce qu'ils pensaient avoir été bon, parce qu'ils ont rendu ça plus beau dans leurs souvenirs. L'Égypte, dans le fond, leur vie là-bas et leurs habitudes étaient tatouées profondément dans leur esprit et dans leur cœur. On retrouve cette même attitude-là dans le Nouveau Testament. Allez dans Jean chapitre 6. Un autre groupe de personnes, Jean chapitre 6, les Juifs à l'époque, Jean chapitre 6, qui étaient face au Christ, au Dieu de l'Ancien Testament, celui qui avait fait ses grands miracles dans le désert, qui leur avait donné à leurs ancêtres la manne dans le désert. Là, vous aviez les descendants de ces gens-là qui étaient face au Christ lui-même, le Dieu de l'Ancien Testament, et qui le contestaient aussi, parce qu'ils ne voulaient pas croire à autre chose. Jean chapitre 6, et ça c'est l'épisode où le Christ leur explique qu'il est le pain du ciel, et que la manne représentait quelque chose de différent qui allait venir à leur époque, les Juifs qui lui parlaient, et qu'il allait être ce pain du ciel qui donne la vie éternelle, qui peut donner la vie éternelle. Alors Jean chapitre 6, commençons à lire au verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Ça, c'est les Juifs qui lui disaient ça au Christ. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Et là, il rappelle au Christ le miracle que le Christ lui-même avait fait pour leurs ancêtres. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Alors, ils disent au Christ lui-même qui avait fait ce miracle-là, nos ancêtres ont mangé de la manne que Dieu leur avait donnée. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, en comparaison de ce miracle-là de la manne? Et regardez comment le Christ a réagi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est-à-dire le vrai pain de vie éternelle. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, en parlant de lui-même. C'est ce que le Christ est en train de leur expliquer. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Mais vous, il n'arrivait pas à changer de station, si vous voulez, à changer de poste, à changer de vision des choses. Les pharisiens l'ont rejeté, et même certains de ses disciples, on le voit plus tard, ont rejeté le Christ. Ils n'étaient pas disposés à changer leur point de vue, à voir au-delà des événements qu'il y avait là. Ils n'acceptaient pas ce que Jésus leur disait. Ils disaient, écoutez, la manne que vos pères ont reçue symbolisait le pain spirituel que je suis et qui peut apporter la vie éternelle au monde. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il nous commande de changer. Et c'est normal. Il veut qu'on cesse d'être malheureux et que ceux qui sont appelés maintenant, le petit troupeau, se préparent pour aider les autres dans le monde à venir à connaître les mêmes choses et à changer aussi pour être heureux. Mais au départ, nous résistons au changement. C'est habituellement notre première réaction, c'est de résister au changement. Et vous savez une chose, c'est même un défi, le changement, même quand on a l'Esprit de Dieu. Ça reste difficile dans certains aspects de changement. Quelqu'un me disait cette semaine, et c'est vrai, il y a certaines choses dans notre vie qu'on a changées vite et rapidement, alors que d'autres choses, ça a été beaucoup plus difficile. Et même certaines choses, on ne voulait pas les voir, ça a pris du temps. Dieu a été patient, il nous l'a montré. Et c'est pour ça que Paul parle des combats qu'on a amenés pour changer. C'est un défi de changer, il y a des luttes. Et, comme j'ai mentionné au début, il y a des changements rapides dans notre vie qui doivent être faits rapidement, et il y a des changements progressifs sur lesquels on doit travailler. On va voir quelques exemples pour nous. Allez dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. On va lire les versets 18 à 22. Comme il marchait, c'est le Christ, le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Alors, voyez-vous, ici, on parle d'un changement rapide. Il y a eu une décision, changement rapide, instantané. Il y a une offre qui leur était faite. Ils ont relevé le défi. Il y a un autre exemple semblable qu'on trouve dans Marc 2. Allons-y, Marc chapitre 2, s'il vous plaît. Marc chapitre 2. C'est bon qu'on voit ces exemples-là parce que ça campe des exemples de décisions instantanées face à des besoins de changement rapides. Marc 2, versets 13 et 14. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait avec lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payeurs. Il lui dit, « Suis-moi. » Un appel de Dieu. Il se leva et le suivit. Décision rapide. Ceux qu'on vient de voir ont accepté l'appel. Ils ont anticipé qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière l'instant qu'ils vivaient à ce moment-là. Ils ont relevé le défi. Voyons maintenant un autre exemple de changement rapide et un chambardement non seulement rapide, mais total. Allez dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Les premiers disciples que le Christ a appelés ont vécu des changements très rapides, puis des changements qui ont dû être parfois bouleversants, puis amener de la confusion, puis des réactions extrêmement pénibles. Ils vivaient des expériences très, très fortes. Alors, Matthieu chapitre 26, et on va lire à partir du verset 47. Alors, le contexte de ça, c'est la semaine de la crucifixion. Ce qu'on va voir maintenant, ça s'est passé juste après le moment où le Christ est allé prier et que ses disciples s'étaient endormis. Et là, son arrestation avait lieu. Et voici ce qui se passe à ce moment-là. Matthieu 26, versets 47 à 50. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Donc, toute la société autour était tournée vers eux. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Allons maintenant un peu plus loin, au verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Alors voyez-vous là, pour les disciples, là, tout venait de changer très rapidement. Leur vie venait de basculer. Peu de temps avant, ils marchaient avec Jésus sur les routes de Judée, sur les routes de Galilée. Les disciples étaient enseignés à ce moment-là par le Christ. La vie semblait suivre son cours tranquillement. Mais voici que tout à coup, ils se trouvaient à Jérusalem, au milieu d'une foule de gens hostiles envers eux et de dirigeants de l'époque hostiles envers eux qui leur en voulaient et qui voulaient atteindre le Christ. Toute la ville était en émoi et leur maître était en état d'arrestation. Ils se sont retrouvés dans l'espace de quelques heures dans cette situation-là. Et non seulement ça, les choses ont empiré. Le Christ a été humilié, a été frappé, torturé et finalement il a été tué. Alors voyez-vous que pour ces hommes-là qui étaient appelés au début, leur vie a été abruptement changée par ces circonstances sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. C'est ça la réalité. Que faire devant de telles circonstances? On va le voir tantôt. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple qui est très encourageant. Allez dans Actes 2. Actes chapitre 2. Et c'est un passage qu'on cite le jour de la Pentecôte parce que ça décrit ce qui est arrivé lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament. Acte 2. Comme je vous dis, c'est un exemple encourageant. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est pas longtemps après ce dont je viens de vous parler. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Incroyable! Une série de miracles très fort, très puissant, ce feu du ciel, ce tremblement de terre, tellement que toute la ville est accourue. Et peut-être même un peu plus, peut-être des gens de la région, parce que ça avait fait beaucoup de bruit. Feu du ciel. Le feu du ciel ne les a pas tués. Les a plutôt transformés en un instant. Tout de suite après, ils se sont mis à parler et les gens les comprenaient chacun dans leur langue respective. C'était le contraire de la tour de Babel, si vous voulez. En un instant, ça s'était passé très rapidement. Autre exemple, Paul, acte 9. On est dans acte 2. Allez juste un peu plus loin. Dans acte chapitre 9, s'il vous plaît. Acte chapitre 9. Et on va lire les versets 1 à 6. Cependant, Saul, qui est devenu Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'ils y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, le christianisme, les disciples de Christ, hommes ou femmes, qu'il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, verset 6, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et après, le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ça, c'est encore là une expérience dramatique, soudaine, un grand changement de toute une vie. Et après, on voit verset 8, « Saul se leva de terre, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien, il était devenu aveugle. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. » En un instant, Dieu a ébranlé sa vie et a retourné sa vie totalement d'un côté à l'autre. Vous savez, nos vies comprennent parfois des moments de changement un peu semblables à ça. Des moments de changement rapides et parfois intensifs. On a d'autres exemples dans la Bible. On ne s'y reportera pas, mais vous pourrez les relire dans l'optique de ce que je vous dis. Ça a été le cas pour Abraham. Écoutez, Abraham menait une vie tranquille. Et l'instant d'après, Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays, quitte ta famille. Je vais t'envoyer dans un pays que tu ne connais pas pour te donner une mission spéciale. » Un ordre choc reçu de Dieu. Ça a été un changement instantané. On voit que Abraham a pris la décision devant ce qui lui était demandé d'aller de l'avant. Parce qu'il a perçu à travers ça quelque chose de plus que la simple demande qui lui était faite de changer de pays. Qu'il y avait autre chose derrière ça. Même chose pour Noé. Noé vivait tranquillement, il menait sa petite vie, il était prédicateur de justice et il menait sa petite vie. Et tout à coup, voici que Dieu lui dit, « Je vais maintenant détruire toute vie humaine de la face de la terre, parce que la violence s'est accrue à travers le monde de façon effroyable. » Alors il dit à Noé, « Bâtis-toi une arche de bois de gopher. » Noé n'avait sûrement pas beaucoup vu d'arche dans sa vie. C'était un changement total, inattendu, et une demande incroyable. Mais il a vu, au-delà de ce qui lui était demandé, et au-delà des circonstances, parce que les circonstances n'annonçaient pas de pluie, il était sur la terre sec, et il n'y avait jamais eu un bateau de cette dimension-là qui a existé avant. Alors, donc, on voit par ça que Noé a saisi quelque chose de plus dans la demande qui était faite, que le simple fait physique de construire une arche. Et Dieu lui avait dit que dans cette aventure, je vais épargner ta vie, celle de tes fils, Dieu voulait recommencer à neuf l'humanité après ça, avec cette famille-là. Ça a été la même chose pour Moïse quand vous regardez ça dans Exode 3. Moïse, après avoir quitté l'Égypte, dans les circonstances que la Bible nous montre, il est devenu gardien de troupeau. Il s'occupait des moutons. Ça a duré, je pense, une quarantaine d'années. Les moutons de son beau-père, Jéthro. Et menait une vie tout à fait tranquille jusqu'au jour où, à un moment donné, en prenant soin de ses moutons, il voit un arbuste qui est en feu. Il est en feu. mais il ne se consume pas. Alors, il voit qu'il y a de quoi de pas normal. Alors, il s'approche. Qu'est-ce qui arrive? Dieu lui dit à ce moment-là qu'il doit retourner en Égypte, qu'il va le représenter auprès de Pharaon et qu'il va être celui qui sera en charge de conduire la délivrance que Dieu va donner à tout le peuple israélite en Égypte. Tout un contrat et quelque chose d'entièrement nouveau, un changement total encore. Loin de se douter qu'à partir de là, sa vie allait totalement changer, Moïse a dû s'en aller rencontrer Pharaon et faire les choses qu'on voit ensuite. Dieu était avec lui pour le reste, c'est sûr. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous promet de nous donner ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Ça, c'est une garantie. Et c'est une assurance qu'on peut avoir, qui nous réjouit, qui nous aide. Vous savez, il n'y a pas seulement des changements rapides. Il y a aussi des changements plus lents, des changements progressifs, dont certains sont à peine perceptibles parfois. Prenons l'histoire d'Adam et Ève, par exemple. À partir du jardin d'Éden à aller jusqu'au déluge, il s'est passé beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que dès le début, quand Dieu a donné la vie à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a enseigné ses voies. Il leur a donné ses lois. Il leur a dit comment vivre heureux. Il leur a expliqué c'est quoi un mariage heureux. Il leur a dit, voici, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf cet arbre-là. Vous ne pouvez pas en manger parce que je ne veux pas que vous choisissiez par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je vous le dis à travers les lois que je vous donne. Je vous dis comment vivre selon certains principes et si vous le faites, vous allez vivre heureux, vous n'aurez pas de conséquences négatives. Mais si vous faites autrement, il y aura des conséquences négatives. Parce qu'il y a l'arbre de vie, ça je vous invite à le prendre celui-là. L'arbre de vie éternelle. Mais ne touchez pas à l'arbre de mort. L'arbre où vous allez décider vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, il leur a montré, il leur a expliqué les choses. Et ça a duré certainement un bon moment. Ça n'a pas été fait dans une après-midi, là. Dieu fait les choses dans le temps. Et Dieu ne leur a pas donné la moitié des instructions. Dieu a pris le temps d'être avec eux autres et de leur expliquer comme il faut, même si ce n'est pas mentionné dans les textes. On connaît ensuite, bien sûr, la décision malheureuse de leur part. Ils ont laissé le mal entrer dans leur vie. Ils ont commencé à le pratiquer. Ils avaient commencé à suivre Satan, l'adversaire, qui leur avait insufflé de choisir cette arbre-là parce qu'ils allaient devenir intelligents, et ainsi de suite. Il a fait appel à l'orgueil, à la vanité et tout ça. Et ils ont suivi ça et graduellement, les choses ont changé. Tant et si bien, les choses ont empiré à tel point qu'environ 1000 années plus tard, le mal était totalement répandu sur toute la terre et que Dieu a dû décider d'éliminer toute vie humaine de la planète. Parce que les humains allaient de toute façon se détruire. Et Dieu ne voulait pas qu'ils aillent assez loin pour que plus tard, au moment de la résurrection, qu'ils ne soient plus récupérables. Alors, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, s'il vous plaît. On va voir ce qui est arrivé dans ce contexte-là. Genèse chapitre 6. Et le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Au début, la méchanceté des hommes, elle n'était pas là. Quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient créés dans une situation parfaite. Ils avaient un beau jardin. Ils avaient l'occasion de vivre en paix et heureux, sans avoir de difficultés et de problèmes. Alors, mais là, c'était changé. 1000 ans plus tard, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On pourrait dire était devenue grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur, toutes, pas seulement quelques pensées, mais que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, tout le temps, uniquement vers le mal. C'est fort, là. Et c'est pour ça que Dieu a dit, on arrête tout maintenant. Je vais effacer toute vie humaine de la planète. Je les ramènerai à l'existence humaine au moment de la deuxième résurrection, selon son plan. Et là, ils seront enseignés dans de meilleures circonstances et ils vont comprendre des choses, ils seront disposés à écouter. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à partir du moment où Dieu a enseigné Adam et Ève dans ce jardin idéal où ils avaient été placés, et ce moment où la terre était devenue remplie de violence, il s'est passé beaucoup de choses. mais ça s'est passé très graduellement, de petits changements ajoutés chaque jour. Comment est-ce possible? Comment est-ce arrivé? Pas en un jour, absolument pas. Les changements se sont produits dans le mal, jour après jour, un peu plus, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, lentement, progressivement. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 13 ensuite, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Voyez-vous comment les choses ont évolué, comment ça s'est produit. Et seul Noé, ses trois fils, ses trois brus et son épouse ont été épargnés. Tout s'est produit tellement lentement et progressivement. Écoutez, comme la croissance d'un arbre. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé une expérience avec mon frère le plus vieux de la famille, sur la ferme. À un moment donné, il y avait un petit érable qui avait poussé entre un rond de fleurs que ma mère avait semé près de l'étable. Entre ce rond de fleurs-là et le mur de l'étable, il y a un petit érable qui avait poussé. Il y avait une belle forme. Alors, on a décidé, mon frère et moi, de le transplanter un peu plus loin dans la cour, à un endroit où il serait visible. Alors, on l'a transplanté. Et moi, j'avais dit à mon frère, ça va prendre du temps avant qu'il donne de l'ombre, avant qu'il soit grand. Je me rappelle la réponse de mon frère, mon vieux frère. Il m'avait dit, c'est sûr, Yvon, que si tu t'assois devant, puis tu le regardes pousser, tu verras rien. Parce que ça se fait tellement lentement. Mais attends, fais tes choses, puis laisse passer le temps. Puis tu vas voir un jour qu'il va grandir, il aura grandi. Aujourd'hui, quand je vais sur la ferme, que je m'assois près de la maison, je vois l'arbre qu'on a planté, qui est rendu maintenant à 12-13 mètres de haut et qui forme une immense boule comme un gros champignon. C'est vraiment beau. Alors, c'est exactement ça. Je ne l'ai pas vu chaque jour se développer, mais il s'est développé et il a rendu un grand arbre. Et ça s'applique dans le bien comme ça s'applique dans le mal. Ce qui était arrivé à partir de la faute d'Adam et Ève, aller jusqu'au déluge, ça l'a dégénéré graduellement, aller jusqu'au pire de la situation. Et après le déluge, il y a eu un nouveau départ pour l'humanité, comme je vous ai mentionné, avec Noé et ses fils et ses brus. Et voyez où on en est rendu aujourd'hui, comme au temps du déluge, comme au temps où Dieu a envoyé le déluge pour détruire l'humanité. Et on est au moment, comme le Christ le dit lui-même, dans des circonstances semblables aux circonstances qui avaient lieu juste avant le déluge. C'est là qu'on est rendu. En une journée, non. Jour après jour. Jour après jour. Dans la même direction. Vous savez, le changement, ça fait partie intégrante du monde physique, du monde matériel. L'herbe pousse. Si elle pousse pas, elle décroît, elle se détériore. Nous, spirituellement, nous devons développer jour après jour le caractère de Dieu. Sinon, nous nous détériorons. C'est un ou l'autre. Il faut en être conscient et appliquer la direction qu'on veut avoir dans notre vie. Vous savez, c'est intéressant de voir parce que dans les textes, c'est marqué que le changement, il est partout dans la nature. Vous irez voir dans Ecclésiaste 1, verset 8, « Tout dans la nature est en changement, continuellement. » Il y a une toute petite phrase qui le dit dans Ecclésiaste 1, verset 8. Toutes choses sont en travail. Toutes choses sont en travail. Maintenant, si on parle de changement pour des chrétiens, bibliquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire le repentir. Regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu et mettre en pratique celles qui nous manquent pour honorer notre Dieu et pour servir les autres, pour faire du bien aux autres et être mieux nous-mêmes. Alors, je pose la question, comment naviguer au milieu des changements rapides qui arrivent? Et quand il y a des changements rapides qui arrivent, ça nous amène à prendre des décisions. Et comment naviguer au milieu de changements progressifs? Quand il y a des changements progressifs qu'on doit faire dans notre vie, à ce moment-là, on doit être persévérant. Quand il y a des changements rapides qui arrivent et qu'on doit faire des choix, on doit décider. Mais quand c'est des changements lents qu'on doit faire, progressifs, de chaque jour, il faut persévérer. On a vu ça dans l'appel de certains premiers disciples. Quand le Christ les a appelés, quand le Christ a appelé Pierre et André son frère, quand il a appelé Jacques et Jean, quelle a été leur réaction? Ils ont pris une décision sur le champ. Ils l'ont suivi. Mais on a des exemples contraires dans la Bible aussi. Je vais vous en donner un. Allez dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Un exemple contraire, vous vous en doutez peut-être, si vous connaissez bien votre Bible, quelqu'un qui a réagi différemment à l'appel du Christ. C'est le jeune homme riche. Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici, un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » C'est intéressant parce que ça prouve aussi qu'on n'a pas la vie éternelle. Il faut que ça nous soit donné, selon certaines conditions. Alors, il demande à Dieu, il demande au Christ, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Le Christ lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » C'est notre base à nous aussi. C'est notre base de vie. Et Jésus répondit, il lui donne ensuite un certain nombre de commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, et ainsi de suite. Après qu'il a cité un certain nombre des commandements, au verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » J'ai fait ça. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, » parce que Jésus connaissait ses problèmes, connaissait son cœur, connaissait la faiblesse qu'il avait. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des biens doit tous les donner comme ça. C'est pas ça. Mais là, c'est un cas particulier où le Christ voyait que le jeune homme avait un problème par rapport à ses possessions. Il y a des gens très riches dans la Bible, comme Abraham, comme Job, et Dieu ne leur a pas reproché leur richesse. Il ne leur a pas demandé de toutes les donner non plus. Mais dans son cas, à lui, il fallait qu'il fasse le pas de se détacher de ses richesses. Et le maître lui offrait une offre extraordinaire pour aller vers la vie éternelle. Et le jeune homme n'a pas perçu l'occasion unique qui lui était donnée. Il avait courte vue. Plutôt que d'évaluer le potentiel de cette offre qui était faite par le Créateur, il a plutôt pensé à lui-même. Il a pensé à sa propre vie, à ses possessions, à sa perception des choses. Tout un contraste par rapport aux premiers disciples qui ont été appelés, là, dont on a vu les exemples tantôt. Maintenant, je pose une question. Comment caractériser la différence de réponse entre ce jeune homme qui s'est reculé, qui n'a pas saisi l'occasion qui lui était offerte, qui n'a pas vu plus loin que la circonstance présente, et les quatre pêcheurs du début, là, qui ont été appelés par le Christ et qui ont suivi le Christ et qui sont devenus eux, parce qu'ils ont suivi le Christ et qui ont persévéré ensuite, qui sont devenus les leaders de son équipe à ce moment-là et qui le seront après le retour du Christ sur la terre. Parce qu'on voit dans les textes que les disciples originaux auront des postes en charge des 12 nations d'Israël. Bon, il y a une grande différence entre les deux exemples. Les disciples originaux qui ont suivi le Christ, qui sont devenus pêcheurs d'hommes, et le jeune homme, pourtant qui était dans une belle situation, il avait tout, il était riche, mais il ne pouvait pas faire le pas de s'attacher davantage à Dieu qu'à ses richesses. La réponse de ça, quelle est cette différence, comment voir la différence, elle est très simple. C'est que les quatre premiers disciples originaux qu'on a vus avaient la bonne perception. Ils avaient la bonne disposition pour apprendre de la situation, pour regarder à l'essentiel qu'il y avait dans la situation, pas simplement à l'événement lui-même. Alors que le jeune homme n'a pas su percevoir l'enjeu qui était en cause, ce qui était important. Comment faire? Pour passer à travers des changements rapides, il nous faut apprendre, il nous faut s'appliquer à regarder à l'essentiel dans les circonstances, même si c'est des grands bouleversements. Il faut rester sur les choses principales, il faut rester sur l'essentiel, garder nos yeux sur l'essentiel, ne pas se laisser distraire, digérer ou décourager par les événements qui se passent autour. Et c'est là qu'on va rester avec une assurance, qu'on aura un cœur paisible, parce qu'on aura cherché les choses de Dieu. On n'aura pas regardé simplement les choses qui vont mal, mais on aura gardé nos yeux sur ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui s'en vient, ce qu'on doit changer, être reconnaissant envers Dieu. C'est la façon de passer à travers les grands bouleversements, comme ceux que nous connaissons maintenant et que nous allons bientôt connaître encore, parce qu'il y en aura d'autres. Et vous savez, quand il vient de grands bouleversements comme ça, de grands changements, c'est qu'on dirait qu'il y a tout un brouillard qui s'installe. Alors, si on garde nos yeux sur le brouillard pour essayer de distinguer des choses et pour essayer de comprendre ces choses-là, ça nous atteint. Mais on perd de vue les choses essentielles qui peuvent nous garder à aller, nous donner l'assurance qu'on a besoin, nous donner la paix d'esprit qu'on a besoin et nous aider à nous préparer pour les autres choses qui viennent. À garder nos yeux, autrement dit, sur un point de repère majeur, sur notre point de repère, qui est le Christ, son plan, notre appel, vivre selon ses voies, remplir notre vie des choses de Dieu, utiliser le temps qu'on a maintenant, on a beaucoup plus de temps, pour étudier sa parole davantage, pour réfléchir, pour récupérer, pour revoir le cours de Bible, revoir les brochures, prendre le temps, pas juste des lire comme un article, mais d'aller voir les versets, de noter des choses. Et là, on se renforce à l'intérieur de la tempête pour être capable d'en sortir et d'affronter les autres tempêtes qui vont venir. C'est ça la différence. Plutôt que de rester pris dans la tempête et de se laisser digérer par ça, de se laisser décourager par ça, c'est qu'on se fait encourager par le plan de Dieu, par notre rôle à jouer, parce que Dieu fait en ce moment, parce qu'il nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour continuer et nous préparer aux choses qui viennent. Et vous savez, ça fait penser la façon de procéder à la méthode qu'utilisent les ballerines, les danseuses de ballet, lorsqu'elles pivotent rapidement sur elles-mêmes. Il y a une seule façon qu'elles utilisent pour ne pas perdre leur équilibre, pour ne pas être déstabilisées. Vous le savez peut-être, certains d'entre vous, mais sinon je vous l'explique. C'est que ces danseuses-là, à un moment donné, lorsqu'elles commencent à pivoter sur elles-mêmes pour tourner plusieurs fois rapidement, elles fixent un point particulier, soit dans la salle, soit sur un mur, et elles commencent leur pivotement à partir du moment où elles fixent ça. Elles commencent à tourner et lorsqu'elles tournent, elles n'arrêtent pas leur regard sur rien autour. Et elles s'organisent pour revenir au point de repère qu'elles ont déterminé. Et elles reviennent constamment à ce point de repère-là. Et de cette façon-là, elles ne perdent pas l'équilibre. C'est la même chose pour nous maintenant, dans ce que nous vivons. Nous sommes au milieu des tourbillons d'une grande tempête. Tempête due à COVID-19, oui, mais qui est soutenue par en dessous par une autre tempête qui va continuer à se développer et qui va être peut-être plus grave encore, celle de l'économie qui est en train de décliner de façon majeure. Alors, c'est là, oui, on le voit. On regarde les choses autour, on regarde ce qui se passe dans le monde et c'était la chose à faire. Mais il faut se préparer, il ne faut pas que le fait de regarder ces choses-là nous éloigne de Dieu ou nous déstabilise, c'est ça que je veux dire, et nous empêche de regarder vers notre but et d'avancer vers notre but et, ce faisant, de nous préparer aux autres tempêtes qui vont venir. Il faut pas nous concentrer sur ces choses-là autour. C'est du temps perdu et on risque de se déstabiliser et de perdre de vue nos objectifs. Le Christ, le royaume, le fait qu'on doit changer. Mais on doit garder nos yeux sur notre point de repère. Le Christ, la parole de Dieu, développer son caractère. Voyons comment les premiers disciples ont exercé cette perception-là qu'on a besoin d'avoir, cette habileté d'apprendre. Luc, chapitre 5, s'il vous plaît. Et on va lire à partir du verset 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Bon, on voit ce qui se passait. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voyez-vous, c'était comme pas logique, humainement parlant, la demande qui lui était faite. Il avait pêché toute la nuit, il n'avait pas pris aucun poisson. Et là, le Christ lui disait, « Ben, jette encore tes filets de ce côté-là de la barque. » Regardez le verset 6 maintenant. Et regardez l'attitude de Pierre, puis le résultat, verset 6. « L'ayant jeté, il prit une grande quantité de de poissons et leur filet se rompait. » Voyez-vous le résultat? Pierre a vu, à travers la demande qui était faite, même si ça ne correspondait pas aux circonstances physiques, il a vu qu'il y avait plus que ça dans la demande qui lui était faite. Donc, on voit que ces premiers disciples-là, qui ont été appelés à devenir des pêcheurs d'hommes, portaient attention. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit utiliser le temps qu'on a maintenant pour porter attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole, pour s'en nourrir, pour en être fortifié, afin de continuer à faire le chemin puis d'arriver au but. Pierre, Jacques et Jean portaient attention, écoutaient, appréciaient, et à travers ça, ils apprenaient. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'ils percevaient l'essentiel au-delà des circonstances qu'il y avait. Comme nous, si on se nourrit de la parole de Dieu chaque jour, même plus qu'on faisait auparavant, qu'on le prie davantage, qu'on jeûne régulièrement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va percevoir l'essentiel au-delà du brouillard qu'il y a autour de nous et au-delà des circonstances qui sont autour de nous. Ça dépassait le simple fait physique de prendre beaucoup de poissons. Il y avait beaucoup plus que ça là-dedans. Et ils percevaient qu'ils étaient en train d'apprendre quelque chose de plus grand que l'événement de pêcher quelques poissons. Ils vivaient l'expérience d'un énorme changement qui allait les amener à voir les choses autrement et à pouvoir accomplir des choses différentes. Ils ont suivi le Christ et sont devenus pêcheurs d'hommes. Voyons un autre événement maintenant, et vous allez voir, c'est intéressant dans le même sens, où Jésus les a préparés. Et Jésus nous prépare à percevoir les choses qui viennent. Écoutez, il nous a préparés à percevoir les choses qui approchent au temps de la fin. Il les a préparés, eux, à percevoir les choses qui allaient arriver au cours des jours suivants. C'était la dernière part que le Christ a pris avec eux. Il les a préparés à percevoir ça, à comprendre ce qui allait se passer quelques heures plus tard. Matthieu 26, verset 26. Matthieu, chapitre 26, et le verset 26. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je n'en boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ailleurs, il est précisé qu'il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'est qu'il les enseignait. Il les préparait. Parce que jusqu'alors, eux avaient célébré la Pâque selon les rites de l'Ancien Testament, que là, le Christ changeait en donnant des symboles nouveaux. Et il leur expliquait ces symboles pour qu'ils puissent en arriver à percevoir ce qu'il fallait qu'ils perçoivent au bon moment. Et c'est arrivé par la suite, bien sûr. Alors, il les préparait à pouvoir naviguer à travers les énormes changements rapides qui allaient survenir juste après. Apprendre, percevoir, comprendre, porter attention, mettre nos yeux sur le point essentiel, comme les ballerines que je vous parlais tantôt. Le point de repère. Même enseignement, verset 31 à 35. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Il leur a dit d'avance. Car il est écrit, je frapperai le berger, ce qui allait lui arriver pas longtemps après, et les brebis du troupeau seront dispersées. Ils allaient se disperser. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et là, Pierre prenant la parole, dit, même si il arrivait telle chose, moi, je renierai pas. Et le Christ a dit, Pierre, tu vas me relier. Il savait qu'il allait le faire. Il ne lui en voulait pas pour ça. Il savait qu'il était humain. Le Christ sait que nous sommes humains. Il ne nous en veut pas pour nos faiblesses, mais il veut que nous changions, que nous prenions la décision d'un changement de vie total en comptant sur lui régulièrement. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Quelle leçon pour nous quand nous affrontons de grands changements? Comment réagissons-nous lorsque des grands changements, des changements dramatiques qui se passent dans nos vies ou bien autour de nous? Quelle est la solution? Est-ce que c'est de se plaindre ou d'accuser quelqu'un, comme les Israélites ont fait? Est-ce que la solution, c'est de se concentrer sur tous les problèmes qui se passent autour et là être digéré dans nos émotions, dans tout ce qu'on est par ça, et d'avoir peur. Non, la solution, c'est de se tourner vers le Dieu du ciel qui est notre refuge, le rocher des siècles, le grand roi qui vient bientôt aussi, notre grand frère, celui qui aide ses tout petits frères et ses tout petites sœurs à atteindre le but. Non, la solution, c'est de nous arrêter. Quand il y a des grands changements qui arrivent, comme c'est le cas maintenant, dans la crise qu'on vit et dans les autres crises qui vont venir, c'est de s'arrêter, de ne pas prendre peur. On a un cantique superbe qui nous dit de ne pas craindre, mais de compter sur Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire, de s'arrêter, de demander à Dieu, aide-moi. Je suis mal à l'aise là-dedans. Je comprends pas tout ce qui arrive. Je sais pas comment ça va se développer. Mais je sais une chose. C'est que toi, tu as établi un plan que tu vas réaliser. Et tu m'as appelé pour jouer un rôle dans ce plan-là. Et tu as promis que tu allais nous aider à arriver au bout. Alors, Père, aide-moi. Dieu, aide-moi à apprendre ce que j'ai à apprendre dans les choses que je vis. Comme tu as aidé les premiers disciples à apprendre dans les choses bouleversantes qu'ils ont vécues. Ils ont passé au travers avec ton aide et tu les as conduits à terme. Aide-moi à percevoir les choses que je dois percevoir à travers ce que j'ai à vivre, dans ce qui m'arrive. Et voyez-vous, on n'a absolument pas besoin de supposer en ce qui concerne ça. Parce qu'on a la parole de Dieu, inspirée par Dieu, qu'il nous a bénis de pouvoir conserver, qu'on peut lire n'importe quand. C'est notre source d'information, c'est notre source d'encouragement. Avec son esprit, la parole, elle est vivante. Et c'est pour ça que si on s'en nourrit dans l'époque où on vit et qu'on reste proche de Dieu, on aura la force de passer avec un cœur paisible à travers ces circonstances-là. C'est une parole inspirée qui a été gardée pour nous préparer encore, même chose que pour les disciples, pour nous préparer encore à ce qui vient et pour nous donner la bonne perception des choses et nous aider à apprendre les leçons qu'on doit apprendre quand les changements rapides arrivent. C'est formidable. Regardez le résultat en ce qui concerne Pierre. Allez dans Acte 2. Ça vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. Acte 2. En ce qui concerne Pierre, c'est le cheminement qu'il a fait. Il a pris la décision. Ça a été inconfortable. À un moment donné, il ne comprenait pas. Il se pensait meilleur qu'il était quand il a dit au Christ, « Moi, je ne t'abandonnerai pas. » Et après, quand il a réalisé qu'il l'avait renié, il en a pleuré énormément. Mais le Christ, rempli de bonté, de miséricorde, l'a aidé ensuite à se remettre sur pied. Et regardez, Pierre qui avait renié le Christ, qui avait eu peur beaucoup en tant qu'être humain, regardez, acte 2, versets 22 à 24, qu'est-ce qui est arrivé après? Ça, c'est encore là le jour de la Pentecôte, ça faisait pas longtemps que le Christ avait été mis à mort. Et regardez le changement de personnalité et la force qu'il recevait de son grand enseignant, du Christ. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, il dit c'était le plan de Dieu que ça arrive de même, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Voyez la force, c'était le même homme qui avait eu peur, qui avait dit au Christ, je ne renierai jamais, mais qui l'avait renié pas longtemps après. C'était plus du tout le même homme. Pierre avait compris. Bien sûr, il avait l'aide de Dieu. On lui demande. Mais on cherche à comprendre et on demande à Dieu de nous donner sa perception des choses. Il avait maintenant la bonne perception. Et tout ça en quelques jours. Voilà comment naviguer dans des changements. Comment comprendre ce qui se passe autour de nous. Ou laisser le brouillard être le brouillard, mais nous garder notre ligne directrice sur le point de repère qui nous est essentiel. Faut comprendre la leçon. Faut voir quoi faire avec son aide. Et je vais plus loin. Faut s'enlever de la route. Parce que parfois, on a tendance à voir les choses à notre façon. Et là, on complique les choses. Faut pas essayer de contrecarrer le plan de Dieu ou de changer son plan en y mettant nos idées, d'introduire nos idées. Faut faire ce que Dieu dit sans discuter. Écoutez, je vous donne un exemple assez simple. Lorsque Dieu a décrété la Pâque dans Exode 12, qui a donné les directives aux Israélites de prendre le sang d'un petit agneau, de le mettre sur la porte de leur maison, de rester enfermés dans leur maison cette nuit-là, parce que l'ange de la mort allait passer dans tout le pays, et toutes les habitations où il n'y aurait pas le sang d'un agneau sur la porte, il y aurait mort d'homme, c'est-à-dire qu'il y aurait décès des premiers-nés. Alors ça, c'était une règle précise, non discutable, non négociable, comme toutes les lois de Dieu d'ailleurs. J'en profite pour souligner ça également. Alors, si un Israélite avait dit à Dieu, « Oui, mais Dieu, il y a deux Égyptiens, mes voisins, qui sont des gens très gentils, c'est un couple vraiment gentil. Est-ce que je peux prendre un peu du sang que je vais mettre sur ma porte pour en mettre sur leur porte? » Pensez-vous que ça aurait fonctionné? Absolument pas. Dieu a dit, la directive, vous mettez sur la porte de votre maison le sang de l'agneau que vous aurez tué, et si vous le faites, vous serez épargné. Ça sous-entendait, si vous ne le faites pas, ou si vous le faites à votre façon, il y aura mort dans votre maison. Il y aura décès dans votre maison. Il n'y avait pas 100 questions à poser. Dieu avait donné une directive. Dieu dit, fais ce que je te dis. Sinon, ton premier-né va mourir. Tout simplement. Dieu a son plan. Vous savez, on ne doit jamais penser faire mieux que Dieu. On ne doit jamais penser qu'on doit avoir une meilleure idée que Dieu ou une autre façon de faire les choses. Il faut vraiment respecter son plan. Si on le fait, Dieu va nous garder. Dieu va nous donner la force. Dieu va nous protéger. Dieu va nous amener jusqu'au bout. Ça va être la même chose quand on aura le signal de la part de la direction de l'Église de Dieu de fuir, de partir pour le lieu de sécurité. Il ne faudra pas qu'il y ait de discussion à ce moment-là. Il ne faudra pas qu'il y ait de discussion. Dieu dit, partez. Il n'y a aucune discussion à faire. C'est le temps de partir. Vous savez, quand on regarde les Israélites, puis on est leurs descendants, quand on regarde les Israélites, ils ont toujours, toujours argumenté par rapport à ce que Dieu faisait. Tout le temps. Quand Dieu leur disait, faites telle chose, ils voulaient faire le contraire. Quand ils avaient Dieu comme roi, ils ont dit, on va avoir un roi humain. Quand Dieu leur a dit, allez explorer le pays, je vous le donne tantôt, là. Ils ont allé explorer le pays, on dit, on veut pas y aller, c'est trop dangereux. Et vous savez, l'histoire des Israélites, c'est la répétition de ce genre d'argumentation. Quand Dieu leur disait, faites ceci, eux disaient, non, c'est autre chose qu'on voudrait faire. Les Israélites ont toujours argumenté avec Dieu. Et même Pierre a fait la même chose sans s'en rendre compte. Et Dieu a dû le rabrouer, le Christ a dû le rabrouer. Vous vous rappelez le moment où, dans Matthieu 26, le Christ a été arrêté. Pierre, qui avait une épée, a tranché l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il faisait en faisant ça? On peut dire que son intention était bonne, mais elle était complètement hors circuit, hors norme, ou hors absolument pas acceptable. Il voulait défendre qui? Le Créateur de l'univers. Alors, qu'est-ce que le Christ a fait? Le Christ lui a dit, enlève-toi de mon chemin. Ce n'est pas à toi de faire ça. Si je voulais être délivré, je pourrais commander immédiatement qu'il y ait 12 légions d'anges qui viennent et personne ne me ferait rien. Alors, Pierre, c'est pas toi qui va intervenir pour me sauver. D'ailleurs, je ne dois pas être sauvé, je suis venu pour donner ma vie. Alors, voyez-vous, parfois, on met nos idées et ça dérange le plan de Dieu. Il faut faire attention pour ne pas aller sur ce terrain-là. Là, tu as fait la même chose. Dieu a envoyé les anges pour faire sortir Lot et les siens de sa ville qui allait détruire. Qu'est-ce que Lot a fait? Il a argumenté. Comment? Il a tardé à partir. Alors qu'on lui disait, va-t'en. Les anges ont été obligés d'insister. Le 24e chapitre du livre de Matthieu, et ailleurs dans la Bible aussi, ça nous donne des signes qui vont nous indiquer quand ce sera le temps de partir, quand ce sera le temps de quitter pour le lieu de sécurité. Et il ne faudra pas hésiter, il faudra suivre ces instructions-là. Ne pas mettre nos pensées de l'avant. J'ai déjà entendu des gens de l'Église, j'espère que c'est plus le cas, j'ai déjà entendu des gens de l'Église dire, il avait à moitié raison, à moitié tort. Il avait à moitié raison dans la première partie de la phrase. Il disait, Dieu est tout puissant. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu peut nous protéger chez nous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un lieu de sécurité. Mais vous savez, si quelqu'un met ses idées devant le commandement de Dieu à ce moment-là, c'est clair que cette personne-là ne sera pas amenée au lieu de sécurité, qu'elle restera derrière, tout simplement. Regardons maintenant, en terminant, certains changements progressifs ou certains changements lents. Vous irez voir dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, 2 Pierre 3, verset 18, il y a un petit résumé du fait qu'on doit changer de ce qu'on était avant et ce qu'on doit devenir selon Dieu. Pierre écrit ceci, « Croissez, donc développez-vous dans la grâce, c'est-à-dire dans le repentir, dans le changement et dans la connaissance. » Et ça se fait en se nourrissant de la parole de Dieu, en demandant son aide pour mettre les choses en pratique. Et là, on croit dans la grâce et dans la connaissance. Et c'est le chemin qu'on doit suivre pour arriver au but et pour garder un esprit sain. Dans le sens, une sanité d'esprit, une paix d'esprit, une joie malgré les bouleversements qu'il peut avoir autour. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Et ça, c'est comment? C'est jour après jour, semaine après semaine, régulièrement et surtout dans les temps où nous sommes. Et c'est la même et la seule façon, d'ailleurs, pour apprendre quoi que ce soit. Écoutez, pour apprendre un métier, comment ça s'apprend un métier? Jour par jour, semaine après semaine, pratique après pratique. Même chose pour apprendre à jouer de la musique. Même chose pour apprendre à devenir un enseignant. Même chose pour apprendre à solidifier son mariage. C'est d'y porter attention et d'y travailler jour après jour. Et c'est jamais fini. Écoutez, on parle de croissance lente, mais réelle. Quand vous regardez un petit bébé, moi je trouve que c'est un très bel exemple de ça, d'une croissance lente, d'un changement lent et progressif. On dirait qu'il n'y a pas de changement d'un jour à l'autre. Hein? Pourtant, ça passe vite, la période où il est nourri au sein, après ça, ça change, il commence à se traîner, il commence à marcher, mais ça se fait jour après jour, et c'est à peine perceptible, mais c'est constant. De sorte qu'à un moment donné, vous êtes face à un bel adolescent, ou une belle adolescente, et après ça, personne d'âge adulte, et ainsi de suite. De petits changements, chaque jour, jour après jour, s'additionnent et solidifient notre cheminement sur le plan spirituel, vers notre but, en s'appliquant à pratiquer les commandements de Dieu en détail, en y pensant, dans nos circonstances à nous de chaque jour, et les circonstances de chacun sont différentes, en développant l'habitude de faire chaque jour de petits changements. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on développe automatiquement, sans nécessairement s'en rendre compte, la capacité de traverser avec succès les grands changements rapides qui arrivent. C'est ça. Parce qu'on l'a fait dans les petits changements constants, on a développé la capacité, avec l'aide de Dieu, de traverser les plus grands changements. Et c'est ce à quoi Dieu nous prépare en nous montrant à percevoir les bonnes choses dans ce qu'il nous commande de faire. Quand il nous dit « Approchez-vous de moi » et je m'approcherai de vous, quand il nous dit de se nourrir chaque jour de sa parole et d'en vivre surtout, d'en faire le centre de notre vie. C'est ce que Dieu nous montre pour qu'on soit capable de passer à travers. Et tous ces petits changements réguliers, en plus de nous affermir dans notre vie chrétienne, nous préparent à l'inimaginable changement complet qui s'en vient. Allez en terminant à un dernier verset, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 15. Peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. Il y a un énorme changement. Pour ceux qui s'appliquent à devenir de nouvelles créatures selon Dieu, en vivant selon ses lois, puis en gardant nos yeux sur le royaume, sur la justice de Dieu, en travaillant à changer, quelles que soient les circonstances autour, et en travaillant chaque jour à le faire, Dieu va nous amener à un moment donné à un changement total. Il est décrit dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y aura des gens d'église qui seront encore vivants physiquement au moment du retour de Christ. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, ceux d'entre nous qui sont encore physiques, nous serons changés en un instant. Wow! Non pas en 9 minutes, comme lors du grand tremblement de terre qui a frappé les pays de la côte de l'océan Indien il y a plus de 5 ans, mais en un instant, changer d'être physique que nous sommes, nous serons transformés en être totalement spirituel. Comment? Par une puissance infiniment plus grande que celle de 23 000 bombes atomiques.